Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être avec nous pour ce nouveau magazine de la moto tous les dimanches de 11h à 12h30 sur Campus Lille 106,6 ou www.campuslille.com. Au sommaire de cette émission, retour sur l'événement majeur du week-end dernier, le Grand Prix de France Moto au Mans. Pour en parler avec nous aujourd'hui, Claude Bonduel et Nicolas Poiret, passionnés depuis des années des Grands Prix Moto. Avec eux, nous allons revenir sur cette cinquième manche du championnat du monde de vitesse de dimanche dernier au Mans. Messieurs, bonjour.
Bonjour, bonjour. Les
alors, ça va très bien.
Ah ouais,
vous êtes en forme. Super forme pour une matinée. Ouais. Plein de sport aujourd'hui sur campus et dans Kikinkou, dans le magazine de la moto. Alors, on revient un petit peu donc sur l'événement de dimanche dernier, notre Grand Prix, hein, nous les Français. Hein, et donc, presque 100 000 spectateurs, record battu.
Ouais, ouais. Le record est battu. Ouais.
Parce que je pense que l'année dernière, il y en avait 85 000 déjà, c'était beaucoup. Hein.
On a le droit, oui, plus de 100 000 spectateurs et une couverture sur France 3.
Et en plus, je ne sais pas ce qui se passe.
C'est rare.
Je suis tombé à l'eau, je peux le dire. Pourtant, il faisait beau, mais là, franchement, en regardant. Ouais.
Que pour la MotoGP, hein, toi aussi.
Faut pas rêver non plus.
Enfin, bon, quand même, c'est déjà pas mal.
Un bel effort.
Oui, mais. Moins bien que Belgique, parce que Belgique, ils font Moto 2 et Grand Prix.
Et voilà,
RTBF 2.
Mais en France, on ne sera jamais aussi balèze que les Belges, Claude.
Ah oui.
Jamais, voilà.
En moto,
voilà.
Oui. Non.
Donc, alors, nous, ici, dans le Nord, on a la chance d'avoir justement la télé belge. Hein. Alors, je ne sais pas, parce qu'il y a beaucoup de motards qui nous écoutent maintenant par Internet, donc ils sont un peu dans l'Ouest. Et les...
oui.
Mais par la TNT, peut-être que c'est possible, peut-être.
Oui, il n'y a pas de souci. Oui.
Voilà. Alors, record du tour du circuit battu aussi.
Oui, par Lorenzo.
Par Lorenzo, hein,
lors des essais.
Donc il a battu son propre record, si je comprends bien.
Oui, oui. Et le record absolu de la piste en moto.
Ouais. Et voilà. Et aussi record de chute en MotoGP, hein, 21 partants, et on ne compte que 13 pilotes à l'arrivée.
Alors c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de chutes, 8 chutes, mais du coup j'ai regardé l'an dernier, et l'an dernier il y a eu 7 chutes. Donc pas tant que ça.
Donc, ouais. Donc on peut pas mettre ça sur le dos des pneumatiques du nouveau Michelin qui arrive.
Ben Michelin, c'est grâce à celui-là qu'ils ont battu le record de la piste.
Oui,
donc il n'est pas si mauvais que ça. Ouais.
On a l'impression que personne n'est vraiment prêt dans ce championnat qui commence. Il règne une confusion vraiment palpable.
Ouais,
on a l'impression que c'est pas clair.
Oui, parce qu'en 5 Grands Prix, tous les grands ont chuté au moins une fois.
C'est
en
vrai.
Course, tous.
C'est vrai.
Vous avez déjà vu, vous alors, vous avez vu cette chute-là avec, en même temps, hein, Dovizioso et Marquez qui chutent pratiquement en même temps.
C'est beau. La chorégraphie, c'est incroyable. Parce qu'il n'y en a pas un qui chute, puis l'autre qui suit. C'est en même temps. Pile poil dans la même seconde.
Heureusement qu'ils ne se sont pas touchés quand même. Parce qu'il y avait un écart.
Je pense qu'au ralenti, on verrait quand même que le deuxième chute légèrement après.
Quand on voit les commentaires dans les revues, il paraît que le pneu avant, il serait pas encore vraiment parfaitement étudié pour les machines.
Ouais.
Michelin, je sais pas.
Il y en a qui disent que le pneu arrière, il va tellement bien qu'il pousse le pneu avant et que c'est à cause de ça qu'il chute.
Je vous raconte un petit peu. Je me suis baladé dans le paddock, au Grand Prix de France. J'ai eu la chance de me balader. Ouais.
J'y étais,
c'est vrai. Ouais. Je suis allé dans le stand Michelin. J'ai testé les pneus pour vous. Je vous dirai, vous en parlez un petit peu. C'est incroyable un petit peu là.
T'as testé les pneus?
Ah oui, j'ai testé les pneus. Enfin, avec mon pouce.
Parce que rouler, c'est autre chose.
Non, mais c'est incroyable, la gomme.
Ça colle.
Ça colle, écoute. Je comprends qu'ils prennent de l'angle à ce point-là. Alors, je comprends aussi le problème de Michelin de faire une gomme qui est aussi tendre.
Mais qui tienne sur la durée d'un Grand Prix.
Ça va être vraiment le gros problème, en fait, la pneumatique.
C'est sûr.
Ça, c'est vraiment. Bon, enfin, on va voir tout ça dans cette émission. Restez avec nous, on passe un morceau de musique et puis on se retrouve après.
Too long. Mm-hmm. What's the destination of a train? She got on. Yeah. Train, won't you help me, please? Begging down on my knees. I wanna come back down those tracks. Bring her back to me. Waiting at the station in the rain for much too long. Yeah.
back where she belongs. Think I'd go down south, bring her back where she belongs. Yeah. Looking out of my window, I got a teardrop in my eye. Got to find my baby, I think I'm gonna die. Think I'd go down south, bring her back where she belongs. In the rain for much too long. What's the destination of the train she got on? Yeah, train, won't you help me please? Begging down on my knees, I want to come back.
Aujourd'hui, dans cette émission, retour sur le Grand Prix de France moto qui s'est déroulé au Mans dimanche dernier. On commence par la Moto 3, la chronologie.
Ça commence toujours par la Moto 3.
Il vaut mieux d'ailleurs. C'est à 11h. Ouais. Ça commence à 11h. Donc, Brad Binder qui a gagné le Grand Prix de Jerez il y a 15 jours.
Incroyable.
Et qui, une fois encore, gagne celui du Grand Prix en France.
Il a gagné de façon incroyable à Jerez parce qu'il avait été déclassé pour un problème sur sa moto. Comme quoi l'électronique n'était pas conforme,
sévère, hein. Je trouvais.
Ouais, parce qu'ils l'ont mis dernier, alors qu'il avait la pole.
La pole.
Donc c'était quasi impossible de gagner. Tu fais la pole, on te met dernier, c'est terrible la sanction.
Ah oui, il avait été disqualifié, enfin oui. pas disqualifié, non. Mais rétrogradé à la dernière ligne parce qu'il avait un problème.
Parce que il avait trouvé que
non conformité
de son électronique.
Ouais,
voilà. Donc c'est une sanction.
Ouais, c'est
grosse sanction. Et il aurait très bien pu être secoué par la sanction et se dire c'est foutu, de toute façon, je repars dernier alors que j'avais la pole. Et non, il s'est accroché et il a survolé le Grand Prix parce que en quelques tours, il avait déjà dépassé 4-5 pilotes.
Surtout qu'à Jerez, en plus, c'est un
c'est
Grand
très
Prix
dur.
Très difficile à doubler.
Très dur, il y a peu d'endroits.
Il y a des endroits où on peut chuter très très vite et c'est vraiment
survolé ça. Et devant, il avait pris de l'avance parce qu'on prend énormément d'avance. Il y a des paquets, d'ailleurs c'est vachement beau à voir cette course parce que c'est toujours en paquet. Il y a tellement l'accélération. En fait, le fait d'être derrière quelqu'un et de profiter de son aspiration est tellement importante que du coup il y a des paquets qui se forment et c'est un petit peu comme les oiseaux dans le ciel, c'est pas toujours le même qui est leader, et parce que celui qui est juste derrière est avantagé donc il passe devant, mais du coup c'est un autre qui est juste derrière donc il est avantagé, donc à chaque virage ça change
de
leader.
J'ai lu ça au Mans, effectivement, l'aspi est très importante pour en Moto 3 parce que justement à mon avis les puissances de toutes les machines sont à peu près identiques, et donc on joue sur un dépassement, on joue sur une aspiration.
Exactement, et du coup c'était incroyable de pouvoir remonter parce que du coup passer d'un paquet à l'autre, ça veut dire que là t'as pas d'aspiration du tout, il faut le faire vraiment par la force du poignet, et c'est ce qu'il a réussi à faire. Incroyable vraiment, et je pense que là il a montré que c'était lui le patron, et je crois que dans les GTA, tu avais raison, on peut dire qu'il est bien parti pour gagner le championnat, il a montré quelque chose qu'a montré personne d'autre,
Non, j'avais bien pronostiqué dès le début,
c'est sûr.
Mais déjà l'année dernière il avait montré des capacités formidables, en plus propre, net, il a aidé ses coéquipiers quand il fallait, il était toujours présent, il n'a jamais gagné, c'est sa première victoire en plus.
Première victoire,
première victoire.
Et c'est un Sud-Africain, donc ils ont rappelé la première victoire d'un Sud-Africain depuis la période héroïque.
Toujours au Mans, donc il partait dans... il est parti en première ligne, je crois, première ligne. Oui. Et en fait, celui qui a fait la course, c'est quand même Romano Fenati, qui a pratiquement fait Lièvre presque durant toute.
Il a fait tout le boulot, effectivement.
Tout le boulot pendant, toute la course, et qui s'est fait doubler à peu près l'avant-dernier tour par Binder.
C'est ça, à l'entame de l'avant-dernier tour, Binder a réussi à passer devant et à prendre tout de suite quelques mètres d'avance suffisamment pour se mettre à l'abri. Et c'est vrai que c'est la première. Jusqu'à présent, chaque course de Moto 3 avait été gagnée par quelqu'un de différent. Et là, lui, il double deux victoires d'affilée.
On voit qu'il a l'expérience parce que justement, il double donc Fenati. Et en fait, il empêche de prendre son aspi. En fait, on voit que sur la piste, il commence à guizaguer. Et puis, ce qui empêche Fenati de se mettre bien collé derrière pour éventuellement le passer juste sur la ligne d'arrivée.
Ouais. La ligne d'arrivée du Mans, c'est impossible pratiquement parce qu'elle est vraiment, après le virage, elle est vraiment très très courte, hein, contrairement à beaucoup de Grands Prix où ils peuvent.
Mais il y a quand même l'espace, on peut le faire.
Il y a un petit espace, mais vraiment il faut être collé derrière. Hein, ouais. Parce que vraiment, il y a 50 mètres, même pas après le virage. Hein.
Ouais. Mais c'est jouable pour un pilote qui est éventuellement bien collé. C'est,
d'ailleurs, Canet, il avait fait une erreur et du coup, il s'est retrouvé bien derrière. Il était dans le groupe des 4, il attaquait Navarro. Canet, et il s'est retrouvé, décalé à cause de ça. Ouais. En attaquant dans le virage et en loupant son attaque sur Navarro. Il s'est retrouvé bien décalé.
Il a fait une goutte d'eau et hop, fini, terminé.
Bon, si vous parlez de nos pilotes français, moi j'ai noté Alex Masbou sur la Peugeot.
Il court toujours après ses grands points. C'est premier point.
Il n'a pas de points pour l'instant.
Non, aucun. Là, il a fait 19e. Ouais. Et il est quand même devant son coéquipier qui est sur Peugeot aussi, c'est McPhee.
Mais son John coéquipier McPhee a marqué des points.
Mais il a déjà marqué des points, son coéquipier. Ouais. Ouais. Et c'est vrai que c'est pas terrible. Normalement, c'est une Mahindra et il y en a d'autres qui arrivent à se débrouiller avec cette moto.
Bah, on se rend compte cette année que Mahindra quand même est légèrement en dessous quand même.
Oui, c'est vrai.
C'est Mahindra Peugeot, c'est ça. C'est parce que c'est un consortium. Enfin, il y a des.
En fait, la partie moto de Peugeot a été rachetée par l'Indien Mahindra.
Voilà.
Alors, ils ont voulu ressusciter le logo Peugeot en mettant un autocollant Peugeot sur la Mahindra, mais c'est une Mahindra normalement.
Mais c'est une équipe Peugeot.
Mais c'est une équipe Peugeot.
Les Canadiens s'occupent, c'est vraiment une équipe particulière.
Donc quand on dit Alex Masbou sur la Peugeot, c'est vrai, hein, c'est vraiment. Il n'y a pas que l'autocollant, quoi. C'est vraiment il y a une partie technique qui fait partie de Peugeot.
Oui,
quoi.
Oui.
Et donc pourtant il partait de la 15e place sur la grille.
Oui.
Donc ça l'autorisait aussi à rêver un petit peu à pouvoir rentrer dans les points au championnat.
Oui, mais bon, ça se fait pas. Hein. Il faut du temps à cette machine d'évoluer, quoi.
Bon, un qui a bien réussi, finalement, c'est Fabio Quartararo, quand même, 6e.
Alors,
premier bon résultat, on va dire.
Disons que c'est. Si on regarde les résultats, c'est vrai qu'il a fait des meilleurs temps en course, mais quand il faisait des meilleurs temps, il chutait. Et là, ça fait vraiment un petit moment qu'il n'avait pas atteint ce niveau-là. Il était dans les leaders du deuxième groupe. Parce qu'il y avait un premier groupe avec quatre pilotes, et lui il était dans le deuxième groupe. Il aurait pu être leader et il s'est fait coiffer sur la fin par Nicolo.
Mais franchement, vers la deuxième partie du Grand Prix, ça se voyait que Quartararo perdait légèrement vis-à-vis du premier groupe. C'est lui qui a freiné le deuxième groupe, hein. Franchement. À voir les images, on peut les resuivre. Je t'assure que là, on voyait quand même qu'il y avait du mal à suivre et qu'il a fait perdre un petit peu une bonne seconde.
C'est vrai, il freinait un petit peu. Et Bulegal a gagné contre lui pour être leader du deuxième groupe. Et c'est vrai qu'il n'avait pas fait aussi bien depuis Silverstone l'an dernier, en finissant sixième.
Avant de se blesser l'année dernière.
Oui.
Enfin, toujours, il a une analyse d'un grand pilote français dans une revue moto qu'on a pu découvrir cette semaine.
Un journal moto.
Un journal moto, quoi. Ouais. Voilà, c'est Christian Sarran qui analyse un petit peu le comportement de Fabien Quartararo sur la piste.
Ouais.
Et il est un peu jeune quand même. Il doit avoir 15 ans, 16 ans maintenant. Il a commencé à 14 ans.
C'est plus le plus jeune. Hein.
C'est plus jeune.
Il y a 17 ans.
C'est Nicolas Boulega qui est plus jeune, qui l'a coiffé au poteau justement.
Voilà. Ouais. Et donc l'analyse, sa manière de piloter, hein, au début, bon ben, c'est assez, comment dire, il se passe très, très très bien, quoi. Et puis après, il y a l'impression le stress peut-être qui commence à l'envahir.
Ouais, Quartararo, il était sur Honda l'an dernier. Cette année, il a une KTM et l'an dernier, ça allait pas si mal, même s'il avait un problème avec son team, avec une mauvaise communication. Là, il a retrouvé son team habituel, donc la communication est meilleure. Par contre, il a un problème au niveau pilotage. Sarron disait qu'il observait depuis le bord de la piste, ça se fait beaucoup maintenant. Hein. En fait, des gens comme ça arrivent à voir beaucoup de choses. En plus, Sarron, il est habitué, il a une école de pilotage, donc il est habitué à analyser le style. Et il a regardé comment passaient les meilleurs et comment passait Quartararo. Et il a trouvé que il rentrait pas assez tôt dans les virages, qu'il était trop brutal sur les freins, qu'il devait garder plus de vitesse en virage,
une position sur la moto aussi.
La position, ouais. Qu'il devait relever sa moto, ouais, plus tôt, voilà. Des choses comme ça. Et donc il lui a donné quelques conseils, et apparemment c'est ce qui lui a permis de, parce qu'il était vraiment dans le fin fond du truc, c'est ce qui lui a permis d'avoir une qualif à peu près honorable et de se comporter un petit peu mieux en course, oui.
Ouais, parce que si on parle de Spilla, c'est que il y a maintenant, ça fait un an, deux ans maintenant, quand il est arrivé dans Moto 3, c'était lui le futur, futur vainqueur.
Oui, il faut dire
c'est lui, je veux être champion Moto 3, je veux être champion Moto 2 et je veux aussi être
champion Moto GP.
Et on se rend compte que c'est pas si facile.
En fait, oui, il avait gagné le championnat espagnol qui s'appelle le CEV, qui est considéré comme l'antichambre du Moto 3. Hein, c'est ce qu'on.
Il a gagné deux fois.
Deux fois d'affilée. Et de belle manière.
Et dominé.
Dominé, largement. Ouais. Donc on s'est dit, quand il va arriver, il va tout casser. Et c'est vrai que les premières courses, il était vraiment devant, l'an dernier. Et puis après, ça commençait à être plus compliqué. Les circuits, il ne connaissait pas.
Voilà, c'est ça.
Et tout ça. Donc en fait, c'était pas si simple. Et cette année, il y a une nouvelle rafale de petits jeunes qui en veulent
aussi,
qui sont arrivés. Voilà. Et donc, c'est y a rien d'acquis. Hein. Ça va être compliqué.
Bon, on va parler du troisième. Et après un morceau de musique, c'est Jules Danilo. Qui a fait le troisième temps en qualif, ouais. Hein, qui malheureusement a chuté deuxième en FP2, je crois.
Alors, c'était pas en qualif, hein. c'était aux essais libres.
Aux essais libres.
Il avait fait une troisième place, effectivement, superbe. Et au qualif, par contre, il a fait un high-side.
Violent. Alors, il s'est fait mal à l'épaule, à la cheville. Ouais. Et
c'est malheureux, du coup, il s'est mal qualifié, hein, il était 27e.
Alors, blessé au coude, à la cheville et à la hanche aussi. Voilà.
Et en course, il s'est fait percuter par Annika dans le premier tour, alors qu'il marchait bien, il avait déjà doublé 4-5 pilotes. Et dans le premier tour, il s'est fait.
On va passer à un morceau de musique et on va revenir sur Jules Danilo, parce qu'on a une petite surprise. J'ai fouillé dans les archives du magazine de la moto et j'ai retrouvé quelque chose d'exceptionnel.
Allons-y.
Everybody seems crazy. I'm thinking maybe that's what's dragging us down. Let's take it easy and pick out a few CDs. Hop in that Chevy and we'll get on out of town. See how far this highway's gonna take us. Find a little change in atmosphere. We'll be the wind, the sunset. Drop the cold rain on a bit of hot pavement. We'll roll through the town, talking about maybe putting roots down here. We'll stick around long enough to disappear. We'll fill up that tank. Breathe in a little road dust. We're getting high on just us. Kick back another wine. We'll pass a dozen. Little Tazza got something. When you're looking for nothing, well that's easy to find. See how far this highway's gonna take us. Find a little change in atmosphere. We'll be the wind. Sunset. Drop the cold rain on a bit of hot pavement.
sunset faded, drop cold rain on a bit of hot pavement. Flash of old memories, a mile of goodbye time. 3 days of peace, love, and music at Woodstock. As it seems, everybody seems crazy. I'm thinking, baby, we ought to get on out of town.
Débriefing du Grand Prix de France qui s'est déroulé le week-end dernier au Mans. On revient sur Jules Danio. Ben, on l'aime bien, nous, ce petit pilote, parce qu'il est de là.
Il est de la région.
Il est du Nord. Je vous dis, Lillois, enfin, il n'est plus à Lille maintenant. Il habite plus à Lille exactement, mais il est banlieue lilloise. Ben, maintenant, je ne sais plus où il est.
Sur les routes.
Hein. Maintenant, voilà, il est sur les routes.
Il change tous les 15 jours.
Voilà, donc, troisième temps. Hein, il y avait 160 millièmes de la pole par rapport au premier, aux essais libres. Hein, et malheureusement, il va chuter donc après en qualif. Il va se retrouver en dernière ligne.
Voilà, 27e.
Un 27e.
Ouais. Et puis, pas de chance, percuté.
Et il se fait percuter après en course au départ.
Dans le premier tour.
Dans le premier tour. Ouais. Voilà.
Alors qu'il avait déjà gagné 4-5 places.
Voilà. Et il marchait bien, oui, il avait déjà dépassé des pilotes. Voilà. Ouais. Et donc, on a retrouvé une archive qui date de 2014. Et Jules Danilo vient de fêter ses 18 ans. Et cette archive était enregistrée au Mans, c'est son premier Grand Prix de France et c'est au Mans.
Bonjour Jules, alors tu cours aujourd'hui, tu viens d'avoir 18 ans, je ne m'abuse, bon anniversaire.
Merci.
Et tu cours ton premier Grand Prix de France, qu'est-ce que tu ressens au fond de toi?
Pour ce premier Grand Prix de France, bah, un peu de pression parce que c'est le haut niveau ici et ça roule vraiment très vite devant et malgré des bons chronos, je me retrouve quand même plutôt loin sur la grille. Donc il y a un peu de pression, mais je pense qu'il va falloir que j'évacue ça pour pouvoir rouler le plus librement possible et puis montrer de quoi je suis capable.
Alors c'est vrai que aussi la recette, la clé du succès pour un pilote, c'est d'abord de se faire plaisir, de jouer sur la piste et non pas d'être trop crispé. Alors est-ce que tu as une recette un peu pour essayer de décontracter?
Non, j'ai pas vraiment de recette, c'est juste le plus relâché j'arrive à être avant de monter sur la moto, le mieux je roule. En général, il y a des fois où je fais des bons chronos en rentrant au stand sans le savoir. Donc ça montre vraiment que quand on est relâché, les chronos ils tombent. Mais non, j'ai pas vraiment de recette particulière.
Alors qu'est-ce que tu peux attendre de cette course en fait, quelle est pourquoi c'est important pour toi en fait de bien figurer ici?
C'est bien important pour moi de bien figurer ici parce que c'est médiatisé, tout ça, c'est le haut niveau, donc forcément si je suis devant au haut niveau, je montre que j'ai ma place dans ce championnat et pour le moment, bah, je pense que c'est plutôt bien réussi.
Alors on sait ici que les conditions climatiques vont être difficiles, si la course déroule sur le sec si la course déroule sur le mouillé, ça va changer beaucoup de choses pour toi, tu peux nous expliquer un peu?
Pour le sec, je pense que je suis pas mal, je peux largement suivre jusqu'à la 15e place parce que il y a un peu moins d'une seconde, donc c'est faisable de les suivre. Après sur le mouillé c'est très différent parce que c'est vraiment des sensations plus délicates, il faut être beaucoup plus doux sur la moto, sur les gaz, tout ça. Je suis pas forcément très bon sur le mouillé, mais là ce matin ça s'est bien passé, je me suis bien amélioré tout au long de la séance et voilà donc
Alors, il faut te dire que tu es aussi originaire de Lille, la raison pour laquelle on t'a aujourd'hui interviewé, parce que tu vas passer là dans l'émission des motards sur Kika Kouté Toupal, Radio Campus Lille. Alors, on te remercie de ta disponibilité et bien sûr, on va suivre ta progression. Quelles sont tes perspectives d'évolution pour la suite?
Pour la suite, j'aimerais bien déjà figurer parmi les meilleurs dans le CEV pour décrocher une place permanente, enfin pour la saison 2014 en Grand Prix. Et après, bah, on va normalement faire plusieurs wildcards. Je pense qu'on discute pour le Saxon Ring et Bruno. Et donc, bah, pour Bruno et Saxon Ring, refaire des bonnes performances pour me montrer un peu. Et puis, voilà, l'objectif, c'est vraiment d'être là en 2014.
Comment tu te sens dans cette équipe, Marc VDS Racing? Comment ça se passe avec eux?
Bah, très très bien. Là, j'ai eu un nouveau télémétriste et technicien. Et c'est des Néo-Zélandais, ils sont adorables. Et donc, pour le moment, tout se passe bien, on se comprend et la moto est bien réglée, elle marche.
Eh bien, écoute, tu as tous nos encouragements sans te mettre la pression. Voilà, tu sais que on est avec toi, on pense à toi et on va te regarder faire ça sur la piste. On te souhaite le meilleur, évidemment. On te souhaite aussi d'être vraiment détendu, de ne pas te mettre la pression et au final d'avoir un bon résultat. À la fin de cette course, ce premier Grand Prix de France.
Merci beaucoup, c'est très gentil.
Merci.
Après la Moto 3, place à la Moto 2. Alors, on rappelle, les Moto 2, c'est l'ancienne catégorie 250 cm3.
Hein. Voilà.
C'est ça, à l'époque où c'était des moteurs deux temps.
Oui. Hein.
On appelait ça Moto 2 maintenant.
Voilà. On a mis des motos, tous ces mêmes moteurs, des moteurs Honda 600.
Il faut rappeler un petit peu comment ça se passe.
Par contre, les châssis, on a le droit de prendre ce qu'on veut, mais en vrai, il n'y a que deux marques, dont une qui domine complètement. Et donc, ils ont quasiment tous la même moto.
Surtout qu'au début, il y avait 7 châssis différents. Hein, au tout début, c'était à peu près ça. Mais on prend le meilleur, et petit à petit, les deux meilleurs se sont affinés l'année dernière. Il y en a un qui dominait l'autre, donc tout le monde a pris le meilleur. Voilà.
Alors oui, en fait c'est des moteurs, c'est pratiquement Honda qui fournit le.
C'est Honda qui fournit les moteurs.
Le plateau, hein,
qui sont des moteurs relativement anciens parce que ils changent d'une saison à l'autre, c'est les mêmes. Ils sont reconditionnés, mais c'est les mêmes et ils ont la même puissance. Et donc c'est étonnant parce que les temps progressent énormément d'année en année et c'est le châssis quoi.
C'est incroyable que sur le châssis, on peut gagner, faire pratiquement mettre une seconde d'avance ou deux secondes au second.
Bien sûr, c'est ce qui est vachement important.
C'est incroyable quand même.
La stabilité en virage, ce qui permet de passer plus vite, de pouvoir accélérer plus tôt. Bien sûr, le châssis c'est très important.
Et après le moteur, et après chaque course, on échange le moteur.
Alors pas chaque course.
Non.
On échange deux fois dans la saison. Deux fois dans la saison, donc trois fois en tout, ils ont trois moteurs.
C'est change en fait.
C'est tiré au sort. On remet tous les moteurs ensemble et on retire au sort. On peut retomber sur le même, mais on retire au sort. Et donc en fait, si jamais quelqu'un prépare un moteur, il va à quelqu'un d'autre après. Ils font le tirage deux fois dans la saison.
Mais la plupart du moteur, on peut pas accéder puisque c'est sous scellé.
Voilà.
Donc on peut pas modifier quoi que ce soit dans le moteur.
Il y avait une histoire l'an dernier pour des gens qui avaient un petit peu agrandi les conduits d'admission, mais c'était dans la boîte à air, des choses comme ça. Et ils n'avaient pas le droit à autant de millimètres.
Ils pensaient mettre un certain niveau et ils ont mis un truc supérieur qui ont été exclus. C'était Nakagami, je crois.
Ouais, c'est ça.
Et la boîte à air, c'est dans la partie cycle. Donc, évidemment.
Oui,
on conserve la partie cycle, mais on change le moteur.
Voilà, mais dans la boîte à air, tu dois avoir un diamètre maximum et ils avaient dépassé un petit peu. Pour faire soi-disant passer dans le cadre, tout ça, machin.
Voilà. Et puis aussi au niveau pneumatique, c'est pareil. Tout le monde est doté de
pneumatiques.
D'Allop.
Après, c'est tous les mêmes. Chacun change. Hein. Je veux dire, chacun prend celui qu'il préfère. Hein. C'est pareil qu'en moto Grand Prix.
Oui, tu choisis un peu dur, tendre, mi-tendre.
D'Allop comme le fromage.
D'Allop, c'est des pneus d'Allop, mais ils proposent une gamme à chacun. Et t'es pas obligé de prendre tous le même pneu. Mais en vrai, ils prennent quasiment tous le même pneu. Parce qu'il y en a qu'un qui va bien, en fait.
Bon, là, pour le Grand Prix de France, c'est Alex Rins qui a dominé. Hein. Il est parti, il a pratiquement mis tout de suite un espace entre le second.
Oui, non, c'est-à-dire que Lutti avait fait des essais extraordinaires. Hein. Tom Lutti, le Suisse, il avait fait la pole. Il avait mené quasiment tous les essais. Chaque petit essai libre, il avait quasiment mené. Et il avait fait un record du tour aussi aux essais. Donc il était vachement bien parti, il était confiant pour gagner. D'ailleurs, il est parti en tête, Lutti. Et Rins, en fait, moi, Rins, il m'a fait penser. Le Rins de cette année, il me fait penser aux Arco de l'an dernier. Parce que il était très fin, en fait. Il a attaqué au bon moment pour ne pas se faire lâcher. Ensuite, il a observé, il est resté derrière. Et puis après il est parti, et quand il est vraiment parti, il a montré une belle détermination, il s'est comporté en patron en fait. Ouais,
surtout que Lutti, on sait que le Mans lui a réussi bien, puisqu'il a déjà gagné au moins 4 fois.
Il adore le Mans, il est à l'aise au Mans, il a ses petits trucs. Et d'ailleurs, je me demandais si Rins n'a pas laissé partir Lutti, pour étudier les endroits où il allait mieux, et ensuite passer devant une fois qu'il avait compris, parce que j'ai remarqué qu'un truc, il y avait Lutti qui virages de raccordement, les S et le garage vert aussi, et donc dans ces virages là Lutti allait au limiteur pour éviter de passer une vitesse. On entendait la moto qui faisait un bruit différent, il passait pas les vitesses et ça lui faisait gagner du temps en fait, parce qu'un changement de vitesse ça fait perdre du temps. Et après Rins faisait pareil, donc je pense qu'il a compris quelques petits trucs en suivant. Et puis après, une fois qu'il a vu qu'il pouvait, les endroits étaient un petit peu moins bons, il pouvait le faire aussi, et après il est passé devant. Rins, il a été impressionnant là. Et puis alors il y a un troisième larron qui s'est invité, étonnant. un petit peu.
Oui, Corsi, oui.
Ouais. Ah, ouais. Avec la speed-up.
Oui, et on sait qu'elle marche bien à certains grands prix. Le problème de la speed-up, c'est qu'elle marche sur certains circuits et beaucoup moins sur d'autres.
Et quand tu dis qu'elle marche, c'est quoi? C'est la partie ici qui marche, qui marche, parce que c'est pas le moteur.
Ben, bon, mais...
On en a parlé tout à l'heure, le moteur c'est le même.
Non, mais il suffit de la regarder. Elle est pratiquement, elle fait quoi, allez, 20 cm de moins large que les autres. Au niveau largeur, elle est vraiment. Elle fait petite.
Ouais, ils ont un brossier en carbone. Ouais. Ils ont, c'est une moto un petit peu. Le châssis est original, un peu plus original que.
C'est marrant parce que la speed-up, il y a toujours un pilote qui marche avec et les autres non.
Ouais.
Parce qu'à chaque fois, il y en a au moins deux ou trois, et cette année c'est pareil, il y en a trois.
Siméon, c'est tous les. Siméon, ouais, c'est vrai.
Et bah, non, il n'y a que Corsi qui l'a fait marcher. Voilà.
Ouais. Bon.
Je vous propose de passer un morceau de musique et on parlera de notre pilote national français.
Champion du monde en titre.
Oui, et qui malheureusement a des problèmes. L'année passée, il dominait le plateau, mais alors vraiment de la tête aux pieds. Quoi, hein. Et cette année, qu'est-ce se passe-t-il? Il a chuté en plus souvent. Hein. Donc on passe un morceau de musique et on va revenir donc, sur cette catégorie Moto 2.
Flames are the back, living their country.
Retour sur le Grand Prix de France moto qui s'est déroulé dimanche dernier. Donc au Mans, on revient sur cette. On termine avec la Moto 2 avec notre pilote français, Johan Zarco.
Champion du monde en titre.
Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il faut avouer que quand même, l'année dernière, il était
au-dessus du lot.
Au-dessus de tout le monde, de tous les pilotes.
Il a impressionné tout le monde, y compris l'étranger. Il était vraiment à l'aise. Il s'est mis très mature, vraiment en patron.
Sur presque tous les circuits. Hein.
Sur quasiment tous les circuits. On n'a jamais eu un pilote français qui a gagné autant de Grands Prix.
Franchement, aux interviews après, tu vois zen, écoute. Voilà. Un type qui.
Et d'ailleurs, à l'époque.
Qui est calme.
À l'époque, il n'y avait pas de pression. Pour pas avoir de pression, il regardait pas ses chronos en fait. Il savait même pas quel chrono il avait fait. Il savait pas si c'était en pole ou pas. Il cherchait pas à le savoir. Et donc il était dans un truc complètement fou où il était. Il se mettait en position de pas se mettre de pression, de préparation physique et tout ça. Et je pense que une fois que t'es champion du monde, imagine t'es champion du monde.
Ouais. J'imagine que je suis champion du monde.
Voilà.
Et alors
je pense que.
J'ai du mal à imaginer.
C'est dur, hein, c'est vachement dur. Mais bon, imagine. Je pense que.
Simplement, t'as tout à perdre.
T'as déjà tout démontré.
Tu crois que ce serait ça qui était.
C'est vachement dur. T'as plus qu'à montrer que tu peux faire aussi bien. Tu peux pas faire mieux. Donc, la motivation, il faut la conserver. En plus, tu te la pètes un petit peu parce que t'es champion du monde quand même.
Ouais, je pense pas qu'il se la pète. C'est pas le genre de
même si tu te la pètes pas.
À se la péter comme ça.
Même si tu te la pètes pas, tout le monde te sollicite. Ouais. Champion du monde, machin, tout ça. Donc, forcément, t'as ton ego, ça fait du bien. Et donc, je pense que c'est vachement dur à gérer le fait d'être champion du monde et de devoir reprouver tout, quoi, comme un gamin qui arrive.
Tu crois que ça serait ça? Il serait pas trop perturbé parce qu'on sait qu'il va l'année prochaine, on va le retrouver sur une Suzuki.
Rien n'est fait.
Il a fait des essais. Là. Il serait pas un petit peu
Il y en a d'autres aussi.
Dispersé à cause de ça.
Rins, il cherche aussi quelque chose. Ouais. Love, il est déjà chez Grazini Aprilia. Il y en a d'autres comme ça.
Ça serait pas ça.
Folger, pareil, il a déjà sa place. Non, je sais pas. Du tout si c'est.
Mais non, je pense aussi peut-être le début de saison, hein, avec tout ce qui s'est passé là-bas, ça perturbe aussi au Qatar. Ce fameux départ, tout le monde anticipait, c'était foiré et tout ça.
Ouais. Mais tous les autres ont fait pareil. Hein.
Oui, mais d'autres ont remonté plus vite que lui. Ouais. Et je pense que ça a marqué que c'est pas normal.
Enfin, ouais. N'empêche, en Argentine, il rectifie le tir. Il gagne et de belle manière.
Oui, tout à fait.
Il a été chercher la victoire.
Ouais. Ouais. Après, il est troisième. USA,
ça va. Il est dans son rôle. Troisième, ça va. C'est vrai que.
Et là, Au Mans, il chute.
Ouais. Il remonte aussi. Il était en train de remonter.
Ouais.
Ah oui, mais.
Même s'il est terminé cinquième, en remontant
sans jamais faire les temps des premiers.
Non,
mais on sent qu'il n'est pas. Il n'est pas dominateur comme l'année dernière. Enfin, il avait commencé à larguer
le groupe où il était. Hein,
oui. Mais à l'arrache un petit peu.
Un peu à l'arrache, ouais. Peut-être. Mmh. La preuve, c'est qu'il est tombé.
Il finit 24e.
Ouais, 24e. C'est pas fini pour lui parce qu'en fait, entre Rins, il a 87 points et, au championnat du monde. Hein, et là, lui, on a 56. L'écart n'est pas extraordinaire quand même. Hein.
Non.
On est même pas à la moitié de la saison en plus.
Il y a Love aussi qui est pas mal.
Qui est juste 5 points derrière.
Ouais. Donc il y a
5 pilotes qui peuvent prétendre à finir sur le podium. Hein.
Je pense, en fin de saison. Je pense franchement
que
ça jouera peut-être entre ceux-là justement. Les 5 qui sont là, ils sont bien là. Je pense qu'à chaque fois, même s'ils marquent pas des points, mais ils sont là aux essais. Ouais. Ils marchent bien aux essais. Certains, comme Folger, a tendance à tomber et en faire un petit peu plus. Mais s'il avait fini ces deux grands prix, il serait peut-être deuxième. Mmh. Il y a des chances.
Mais c'est vrai qu'en même temps, c'est une drôle de catégorie Moto 2 parce que depuis la création des Moto 2, à part Marquez, il n'y a aucun vainqueur de catégorie Moto 2 qui ait fait quelque chose en Moto GP.
Ouais.
Parce qu'il y a eu Elias, ça n'a pas marché. Bradle, c'était un feu de paille. Paul Espargaro, c'est toujours pas complètement ça. Rabat, c'est pas ça du tout. Par contre, il y a Yannone et Vinales qui, eux, ont pas été champions. Hein, Yannone, il doit être deux fois troisième, une fois deuxième. Ouais. Et puis.
Et il gagnait.
Et puis Vinales, il a fait qu'un an où il a fait troisième. Et eux, ça marche. Mais donc c'est, ça, ça prépare pas forcément magnifiquement au MotoGP.
Ah non, non ah. C'est ce qu'il disait. Hein. Il y en a qui disent non, il vaut mieux même venir que du superbike que
à la limite,
moto.
Oui.
Je sais pas. Là, franchement.
Donc on sent bien que c'est une catégorie un petit peu. Mais bon, mais c'est vrai que Zarco, là, il faut qu'il se trouve. J'espère qu'en Italie, il va retrouver un peu de panache.
Ouais, bah, le prochain Grand Prix, c'est le Mugello. Ouais. Hein, on espère que là, ça va, ça va remonter un petit peu le,
Le 22 mai.
La cote de Zarco. Très bien.
Quand il s'exprime sur le sujet, il parle vachement de mental. Hein. J'essaie de regarder justement un petit peu à droite à gauche sur son blog, et il dit que c'est le mental. Hein. Il a du mal à se remettre dans la motivation mentalement et à conserver. Parce que l'an dernier, il était dans une dynamique où il se sentait invincible. Et là, il n'arrive pas à retrouver ça. Il n'y a rien qui lui prouve ça. Il n'arrive pas à péter un temps aux essais. Il n'arrive pas à concrétiser.
Oui, c'est
en
ça
course.
Qui est incroyable aussi. Ouais. Même les essais, c'est pas extraordinaire en fait. Hein.
Non.
C'est pas
Non, c'est pas la domination qu'il faisait, parce que l'an dernier, en plus, il dominait aux essais. Hein.
Très bien.
Justement, Moto 2, juste pour conclure, les jeunes en Moto 2, bah, il n'y en a pas tant que ça. Hein. Il y a Hintz, qui est sa qui deuxième saison. Ouais. Lowe, non, parce qu'il a déjà couru ailleurs que là. Et il y a juste Morbidelli, qui est un jeune qui monte, mais le reste, pour l'instant, il n'y a rien qui est prouvé. Hein. Les autres. Thomas, Lutti, Zarco, Folger, Corsi, Lowe, c'est des gens qui ont déjà un bon parcours.
Voilà,
Bon, je vous propose de passer à un morceau de musique et après on va parler de MotoGP, si on a terminé avec la Moto 2.
Oui.
Hein, voilà, et on parlera de catégorie reine, la GP. We'll be right back. Voilà, toujours ce débriefing hein, du Grand Prix de France qui s'est déroulé le week-end dernier au Mans. Catégorie MotoGP, donc catégorie reine, hein, ce qu'on disait avant, avec les 500 cm3 de temps, maintenant c'est GP. Voilà, donc notre cher ami espagnol Lorenzo qui gagne encore une fois au Mans. Apparemment, c'est un circuit qu'il aime bien.
Hein. Alors justement, l'ami, toi qui étais sur place, je veux savoir, j'ai entendu parler... Que il y avait 100 000 spectateurs, hein, c'est énorme.
On peut pas tout savoir aussi. Hein,
non. Mais il y avait dans la tribune Rossi, il paraît qu'il s'est passé des choses un petit peu. Ils ont sifflé Lorenzo.
Alors moi je peux vous dire que Marquez et Lorenzo sont sifflés.
Ils sont sifflés.
Mais pas que dans les tribunes.
Voilà. Et lors de la chute de Marquez.
Partout. Ouais.
Et lors de la chute de Marquez.
Ils ont applaudi.
Ouais, ouais, c'est vrai.
Ouais, c'est vrai.
Donc,
ouais, ouais,
c'est idiot parce qu'en applaudissant, ça fait gagner Lorenzo que Marquez chute. Bah oui.
Non mais il y avait quand même Rossi qui était à la chasse, enfin qui venait de passer.
Il avait passé la régulière.
Marquez et Dovi. Hein.
Ouais.
Bon. Mais si Marquez. Et apparemment, on a l'impression que
c'est Lorenzo qui fait le trou. Donc c'est débile.
Oui mais
j'espère que la moto ça va pas devenir comme le foot. Hein.
Alors
c'est vrai. Hein.
Faut avouer que c'est un petit peu déplorable. Bah effectivement, moi j'étais dans la tribune ACO et donc il y a un écran énorme et on voit effectivement les deux motos chuter en même temps. Hein, donc celle de Marquez et Dovizio. Et effectivement. Les spectateurs ont applaudi et la chute de Marquez.
Je veux bien que l'an dernier ça laisse des traces, mais Lorenzo quand même, il avait le record de la piste. Il a gagné de belle manière.
Alors et même Nicolas, même dans le paddock, j'ai eu la chance d'être dans le paddock derrière après. Oui. Et malheureusement, j'ai vu Lorenzo sortir des stands. Il s'est fait huer aussi par le public. Alors que c'est quand même lui qui a gagné le Grand Prix quand même.
Ouais, hein. Voilà. Et puis, c'est un excellent pilote.
C'est un excellent pilote. Il faut avouer.
On peut pas. Mais je. Je
commence à comprendre ce qui s'est passé l'année dernière avec Marquez et Lorenzo. Après la course des MotoGP, je me suis donc présenté dans le paddock derrière. Et effectivement, et le seul endroit où il y a du monde, où il y a des gens qui attendent la sortie du pilote, c'est dans le stand, c'est en face du paddock de Rossi.
Ah, c'est une icône.
C'est vrai. Il y avait au moins 100 personnes en face derrière. Et donc, par contre, les autres, il n'y a personne.
Tout le monde s'en fout.
Marquez, il n'y a personne. Lorenzo qui était juste à côté, il n'y avait personne qui l'attendait. Voilà. Alors, je commence à comprendre. Et j'étais même voir un peu là, combien gagnaient les pilotes. Et aussi là, je me suis rendu compte de quelque chose aussi. C'est pourquoi il y a un peu de jalousie, à mon avis, de Marquez et peut-être d'autres aussi, hein, vis-à-vis de Rossi. Voilà. Enfin, bref, ça c'est
un aparté.
Une parenthèse.
Ouais, c'est sûr. Ouais, mais bon.
Voilà. Bref, donc.
Mais ça n'explique pas. Enfin, les supporters n'ont.
Et applaudir la chute de Marquez. Donc,
ouais, voilà. Qu'on soit fan de quelqu'un, on peut comprendre.
Oui, mais moi je pense que ça a laissé des traces. L'affaire de l'année dernière.
Ouais, il est temps de tourner la page.
Ça, mais bon.
Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Je pense que les journalistes en parlaient tout le temps.
On est des motards, on n'est pas des footballeurs. Bon, alors comment on va quand même pas se comporter comme des.
Exactement, je suis d'accord.
Voilà. On sait tous que rouler sur une moto, ce que ça fait et qu'il faut être très balèze pour rouler à ces vitesses-là
et respect pour ces pilotes
respect.
C'est les meilleurs du monde.
Voilà, c'est les meilleurs du monde. Donc c'est un peu dommage, effectivement. Ouais. T'as raison, Nicolas. Mmh.
Donc, on a quand même vu du grand Lorenzo, donc, parce qu'il a quand même battu le record de la piste, hein, sous les 1.32. Le record
donc
absolu
il
de la piste
en record de l'année dernière.
Oui, hein, avec les nouveaux pneus, avec une électronique qui va moins bien, soi-disant. Ouais. Il arrive à battre le record de la piste en moto. Hein, donc, on a vu aussi du grand Rossi.
Ah oui.
Parce qu'il a quand même dépassé la régulière. Hein, la deuxième
c'était
place,
correct.
La deuxième. Non, et puis.
On pouvait avoir peur. fois que Rossi va doubler Marquez, de se dire.
Heureusement qu'il était là pour le spectacle. Il était qualifié 7e. Ouais. Il finit sur le podium 2e.
Ouais.
C'était pas évident.
Non.
Et il a pas profité de la chute vu qu'il les avait dépassés avant. Il a fait le spectacle.
Beaucoup disent que la chute est due à essayer de suivre Rossi.
Oui, alors,
exactement.
Moi, c'est ce que je me suis dit. Ils ont essayé de suivre le rythme de Rossi. Et puis, à force d'essayer de suivre,
en chute. Ouais.
Et déception pour les Ducati. Toutes les deux par terre.
Alors, et puis, il y a la déception pour Dovizioso depuis le début de saison.
C'est toujours quelque chose. À mon avis, comme disait quelqu'un, il faut enlever le chat noir qui est sous la selle. Je sais pas, libérer quelque chose parce qu'il y a
quelque chose, c'est pas normal, c'est une catastrophe.
Elle marche bien, ils sont très rapides et ils concrétisent rien du tout, ils tombent à chaque fois ou ils sont rentrés dedans.
Il y a Noné aussi. Voilà. Bon, et tout ça, ça fait quand même les affaires aussi de Vinales.
Ah bah voilà, oui, justement, hein, premier podium d'une voilà. Suzuki depuis,
depuis, depuis longtemps.
Depuis très longtemps. Depuis très
alors,
longtemps.
Je peux vous le dire, oui. Depuis 2008. Et le dernier à avoir monté sur un podium, c'est Capirossi.
Quand il y avait en Suzuki. Cruz,
en Suzuki.
Il y avait une Suzuki qui était montée sur un podium.
Podium en troisième position. D'accord. Capirossi en 2008. Ah, oui. C'est l'année de ces, des derniers podiums de Suzuki. Ils ont eu trois podiums avec Vermeulen, deux podiums, oui, et Capirossi, un podium.
D'accord.
En troisième position.
D'accord, d'accord.
Et la dernière victoire de Suzuki, ça remonte à 2007. Avec Vermeulen au Grand Prix de France.
Sous la flotte.
Sous la flotte.
Ouais, ouais. Exact, ouais, exact.
Donc au nombre de points, finalement, ça fait du bien à, bah, à Rossi, finir deuxième, et que Marquez ait finalement chuté quand même, on dit, au niveau du championnat.
Oui.
Hein, parce qu'il y avait quand même, il commençait à y avoir un petit écart quand même.
Oui.
Et puis, alors un qui ne s'est pas hué, c'est Pedrosa. Alors lui...
consensuel.
Consensuel, exactement. Ah, ça, c'est le mot à utiliser, oui. Lui, apparemment, voilà.
C'est le mec qui fait pas de vagues. Voilà. Surtout sur toute l'année, il fait plus beaucoup de vagues.
Apparemment, au niveau spectateur, on l'aime bien. Ouais. Voilà.
Ouais, mais en fait, c'était le quatrième homme, mais là, c'est plus le quatrième homme cette année. À peine.
Pour l'instant,
il est en demi-teinte.
Oui, pour l'instant, oui. Mais il est quand même quatrième au championnat du monde.
Oui. Il est quand même quatrième, à cause des chutes des Ducati et des contre-performances.
Bah, les Ducati,
mais c'est pas sa place.
Il faut dire que la première Ducati, c'est une Avancia.
Oui.
Une Ducati de 2014.
Ouais, c'est fou.
Alors, c'est fantastique.
Ouais. Apparemment, les Ducati ont 10 bornes de plus, hein, apparemment, que les.
Ouais.
Que
elles sont plus rapides.
Plus rapides. Ouais. Et ça fait pas de différence, tu vois.
Ouais. Et Marquez, là, il arrête pas de râler sur la capacité d'accélération de sa moto. Hein. Il dit qu'elle accélère pas. Hein.
Alors donc ça c'est peut-être le changement de Poitiers donc.
Voilà, il dit que la Suzuki elle accélère mieux que la Honda, qu'il est derrière les Yam et la Suzuki et les Ducati.
Alors c'est curieux, en Argentine ou en Amérique, on avait la Honda qui était dominateur, hein,
oui.
On pouvait gagner les deux courses,
quand même, voilà. Et puis arrivé en Europe, plus rien. C'est quand même curieux, il y a des choses qui se passent quand même.
Ouais, bizarre, on comprend pas. C'est vrai que les cartes sont quand même rebattues, mais ça reste quand même les mêmes qui sont devant.
Oui, ils sont toujours devant.
C'est toujours les mêmes.
C'est quand même dingue.
C'est dingue.
Ouais, ouais,
ça, c'est incroyable. C'est est-ce qu'on parle de notre petit français, Loris Baz?
Ouais, il a pas eu de chance.
Bon, il s'est fait quand même percuter deux fois. Il est reparti la première fois. Il s'est fait sortir. Ouais. Pas percuté, mais il s'est fait sortir une fois.
Lui aussi, il a souffert de la pression.
Ouais, ouais.
Donc, il a fait 21e en qualif et 12e en course. 12e en course, c'est son meilleur résultat. Sauf que 12e, c'était dernier, il y avait juste Marc Marquez à un tour qui était 13e, mais lui il a chuté.
Il est 12e, mais il a profité aussi des chutes, hein, parce qu'il y a eu pas mal de chutes quand même.
Il était à plus d'une minute du premier. Hein, donc,
surtout que son principal adversaire, on disait son coéquipier, et le coéquipier,
il marche bien.
Le premier
la première Ducati. Hein,
c'est barbare.
Ouais.
Voilà, moi je propose de passer un morceau de musique. On viendra un petit si on a le temps, parce qu'on va avoir quelqu'un au téléphone là.
Ouais.
Si on a le temps, on parlera un petit peu de ce qui va se passer l'année prochaine déjà.
Les transferts.
C'est un peu dommage, hein, parce que la saison a à peine commencé, on parle déjà de 2017.
Voilà.
Moi je trouve ça un peu nul aussi.
Ouais.
Pour l'instant, on vit d'abord 2016, on verra 2017.
Mais,
hein.
Mais qu'est-ce qui a lancé tout ça,
hein,
ça
c'est Rossi.
C'est vraiment Rossi. Voilà. Ouais. Allez, musique et puis on se retrouve après.
One thing led to another, and I took
téléphone, nous avons Benoît Delmotte, coordinateur de la Fédération française des motards en colère. Benoît, bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour à tous.
Tu vas nous parler de cette opération Motard d'un jour qui va se dérouler du 30 mai au 12 juin.
Voilà. Alors, c'est du 30 mai au 12 juin un peu partout en France. Et nous, sur la région lilloise, nous l'organisons le jeudi 2 juin 2016, donc à Bézieux, au départ du centre culturel de Bézieux, où nous sommes d'habitude toujours très bien reçus. Donc cette opération, en fait, c'est plus un appel à l'aide que je vous envoie, parce qu'on aura besoin de motards. Alors ce n'est pas une balade, hein, je précise, c'est juste que le but de l'opération, c'est d'emmener des élus et des techniciens qui ne sont pas du tout habitués à circuler à moto, sur les routes de notre département et principalement de la région, on va dire Bézieux, Waterloo, Roubaix, un petit parcours urbain, un petit parcours campagne, de les emmener à moto et puis voilà, de partager un moment avec eux, de leur faire découvrir ce que c'est de la moto et ce que c'est surtout notre ressenti vis-à-vis de parfois les infrastructures défectueuses qu'on a sur nos routes. Donc voilà, on aura surtout besoin de motards expérimentés, de motards qui ont l'habitude de convoyer des passagers, qui ont des motos confortables tant qu'à faire. Voilà, et c'est pas un grand déplacement de moto, mais ce serait malheureux d'avoir des techniciens et des élus qui nous rejoignent et qu'on ait personne pour les emmener, quoi.
Oui, bien sûr. Donc, et surtout des customs, enfin des routières et customs, de façon
à ce que ces élus soient
confortables, hein, pas une sportive ou avec une petite salle à l'arrière où on retrouve un élu complètement tordu.
Voilà, c'est pas la bonne image qu'on veut donner. Quoi. C'est vraiment une journée, une opération de promotion de la moto. Donc on veut vraiment leur montrer aussi qu'on est des citoyens responsables, qu'on est des usagers vulnérables, mais responsables avant tout, et qu'on a surtout des choses à leur dire et à leur apprendre, parce qu'en fait, ces gens qui décident très souvent pour nous dans des réunions, des commissions de travail ou même parfois des choix d'infrastructure, se rendent compte après avoir fait un peu de moto que s'ils avaient su avant, ils n'auraient pas fait ces choix-là. Et nous, c'est très important de les rencontrer, et c'est surtout très important de les rencontrer et de les convoyer dans de bonnes conditions. Donc il faut des gens qui soient habitués à avoir un passager et qui aient des motos adaptées et qui soient disponibles en semaine. Alors ça fait beaucoup de conditions puisque en fait le jeudi c'est en semaine, mais c'est malheureusement le seul moment où ces gens-là sont pour nous disponibles. Donc voilà, ça fait trois conditions, mais c'est très important pour nous d'avoir le maximum de motos. Peut-être qu'on n'aura peut-être pas besoin de tout le monde ce jour-là, mais à ce moment-là on préviendra suffisamment tôt si on n'a pas besoin de tout le monde. Par contre, ce qui serait aussi très bien, c'est qu'on puisse avoir une réponse d'éventuels participants avant le 22 mai. Alors, je sais que ça peut faire un peu court, on peut encore se retourner un peu après, hein, si on pouvait avoir une réponse avant fin mai, parce que voilà.
Comment on fait si éventuellement ça intéresse si des gens qui peuvent se libérer le jeudi 2 juin c'est pour accompagner, on va faire monter des élus en passagers derrière la moto et leur montrer un petit peu les endroits dangereux où on pourrait faire des choses.
Et aussi des choses bien faites, parce qu'il ne faut pas dire tout n'est pas mal fait, il y a des fois des choses bien faites. On va notamment les emmener du côté du pont du Sartel à Waterloo, qui a été complètement refait suite à l'intervention d'un motard qui s'était plaint auprès de sa commune, qui avait remonté vers nous. Le revêtement était complètement usé, lisse, et c'était des plaques métalliques, quoi. Et le revêtement a été complètement refait, et maintenant on va montrer que maintenant ça adhère et ça tient, et qu'au moins c'est terminé en conformité, quoi. Donc on va aussi montrer les bonnes choses, parce qu'il y a quand même aussi des bonnes choses de fait. Il faut juste des fois les alerter, et donc voilà. Donc le moyen de nous joindre, c'est très simple, il faut nous envoyer un mail à l'adresse que je vous donne maintenant. Donc c'est mail ffmc59. Donc c'est mailffmc59@gmail.com.
Très bien.
Voilà. Ou sur notre site, ou éventuellement le vendredi soir au 145 rue Nationale à Lille.
Très bien. Voilà, très bien.
Ou si éventuellement les gens ne peuvent pas se rendre disponibles, laissez un petit message avec leurs coordonnées au bureau de la mutuelle.
Soit
Lille, qui nous transmettra bien volontiers les coordonnées des personnes qu'on se fera un plaisir de rappeler et de prévenir.
Très bien, Benoît. Merci.
Voilà, merci à vous.
Merci de ton appel. Merci d'avoir répondu aux questions. Merci, bon dimanche.
À bientôt.
Au revoir. Retour sur ce fameux Grand Prix de France qui s'est déroulé donc la semaine dernière au Mans avec Nicolas Poiret et Claude Bonduel. On va terminer donc sur ces fameux transferts. Déjà qu'on parle, le championnat n'a pas encore commencé. Enfin, il a commencé il y a 5 manches seulement. Hein, et on parle déjà de 2017.
Bah, oui.
Et c'est notre... c'est celui qui gagne le plus d'argent. Hein, c'est notre ami Valentino Rossi hein, voilà. qui a lancé ça. Hein.
Rossi s'est placé dès le premier Grand Prix. Et donc, il a dit qu'il renouvelait pour 2 ans, qu'il re-signait pour 2 ans chez Yamaha. Du coup, Lorenzo, qui est son coéquipier chez Yamaha, sait que c'est pas lui le premier, quelque part, puisqu'on lui a pas posé la question avant.
Pourtant, hein, chez Yamaha, il n'y a pas de premier.
Normalement. Voilà. Mais du coup, Rossi, psychologiquement, il prenait un certain ascendant en disant qu'il re-signait. Il s'est moqué un petit peu de Lorenzo en disant qu'il serait pas capable d'aller chez Ducati. Bon, piqué au vif, Lorenzo.
Oui, puis la Ducati marche bien, pas mal. Ouais,
voilà.
Ouais. Alors lui, est-ce que tu crois que ça va marcher, Ducati, pour Lorenzo?
Pourquoi pas, hein?
Pourquoi pas? C'est le pilote de la machine.
Ben,
tu te souviens, il y avait un Sonner qui a été champion du monde avec cette fameuse Ducati quand même.
Exactement. Et après, il était champion du monde avec la Honda, Sonner. Donc un bon pilote, ça reste un bon pilote. Il n'y a rien à faire. Donc je pense que ça peut marcher, oui. Et donc, ben, du coup, il y a une place de libre chez Yamaha. Et donc, ça commence à gamberger.
On entend parler de Pedrosa.
Voilà. On entend parler de Pedrosa, mais Rossi, l'année prochaine, il aura 38 ans. Pedrosa, l'année prochaine, il aura 32 ans.
Il sera deux vieux, alors.
Ah, ça fera deux vieux, c'est pas top. Alors après, on parle de Rins. Il est en Moto 2, et c'est vrai qu'il est excellent, c'est l'étoile montante. Il est jeune, donc ça serait peut-être un bon plan.
C'est quand même dommage de dire qu'à 32 ans, on est vieux. Quand même.
Ouais, ben, pour la moto, hein, on n'est pas vieux, mais disons qu'on est un vieux pilote par rapport aux petits jeunes qui n'en veulent.
Ouais.
Hein. Et puis, on parle aussi de Vinales.
Oui, et puis surtout, on a parlé l'année dernière de Paul Espargaro, qui marque un peu le pas, mais...
Voilà. On lui avait fait miroiter à Paul Espargaro que s'il était bon, il pouvait passer dans le team après
officiel,
dans le team satellite,
tout à fait.
Il passait dans le team officiel. Et là, on en parle de moins en moins. Lui, il se dit la parole donnée, et là, ils sont en train d'essayer de recruter Vinales. Et seulement, il y a une belle réaction, justement, au Grand Prix de France. Schwantz était là. Il a dit à Vinales, mais si tu vas chez Yamaha, tu vas être le deuxième pilote dans l'ombre de Rossi. Rossi, il a tendance à détruire ses coéquipiers.
Ah oui, bah ça,
toi, t'es jeune, tu vas te faire laminer. Si t'arrives pas à être devant Rossi, ils diront ils ont fait le mauvais choix, tu vas te faire la guerre psychologique. Par contre, si tu restes chez Suzuki, c'était le numéro 1, ils veulent te faire. Ils sont prêts à tout pour te donner une bonne moto. Tu vas demander un truc, tu vas l'avoir.
La paye, elle est pas la même aussi.
Alors justement, c'est à peu près équivalent. Les offres, parce qu'il n'y a plus de sous. Les sous sont déjà pris, les deux gros qui consomment des sous, Lorenzo et Rossi, ils ont déjà tout pris. Donc là, maintenant, il reste les miettes, et pour les miettes, c'est à peu près pareil. Et donc, ils sont, parce que Suzuki est capable de faire un effort pour garder Vinales, et Yamaha peut plus faire beaucoup d'efforts puisqu'il a payé Rossi. Donc ça revient à peu près au même. Et Schwantz lui a dit, reste chez Suzuki, ils sont presque au niveau de la Yamaha, ils progressent tous les ans, Suzuki, ça va être une moto qui va pouvoir être championne du monde bientôt. Et donc je pense que moi je trouve que c'est un mieux.
Bon calcul.
Ouais. Ouais.
Et peut-être aussi notre ami Zarco qui sera chez.
Alors Zarco lui, il a choisi plutôt d'aller du côté de Suzuki parce qu'il va faire les 8 heures de Suzuka.
Oui.
Après il faut qu'il confirme.
Rien n'est signé.
Ça va être compliqué. Il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Hein.
Non.
Et après, l'histoire de Pedrosa, oui, c'est vrai qu'un Espagnol a toujours plus de chances d'être signé parce que tout le système est espagnol là-dedans. Hein.
Et on ne sait pas chez Ducati qui va partir.
Non, on ne sait pas encore.
On ne sait pas encore.
Ouais, on ne sait pas encore. Entre Yannone et Dovizioso, on ne sait pas. Il n'y en a rien, forcément, il faut qu'il laisse une
De toute façon, le 2016 n'est pas terminé, hein. On n'en est même pas encore au tiers de la saison.
Même pas.
On verra ça donc fin de saison 2016. Oh
oui, c'est parce que ça occupe les médias déjà maintenant. Ouais, voilà, c'est vrai que c'est dommage. Voilà.
Et on va déjà s'occuper de savoir qui sera champion du monde en 2016.
Mais moi, je serais pas étonné que les trois qui ont gagné en France, ça soit les futurs champions du monde 2016. Parce que la situation, elle commence à se décanter. Et tous les trois, ils ont montré que ils étaient pas mal. Qu'est-ce que t'en penses ?
Oui, tout à fait.
Bon, messieurs, c'est bon pour le débriefing Grand Prix de France ?
Oui.
Bon, très bien. Allez, morceau de musique. Téléphone, nous avons Jean-Michel Sarrazin, des amis de Ventegame. Jean-Michel, bonjour.
Ouais, bonjour.
Alors, tu organises le dimanche prochain, en fait, c'est le 22 mai.
Voilà.
Là, une bénédiction, la bénédiction à Bayeul.
Ouais.
Avec l'abbé Janin.
Ouais.
Voilà. Alors, dis-moi un petit peu comment ça va se dérouler, cette bénédiction.
C'est la 7e année qu'on fait la bénédiction avec l'abbé Janin. Ceux qui sont un peu de la région, qui connaissent un peu les carnavaleux, vont connaître l'abbé Janin. L'abbé Janin, c'est le seul abbé qui fait une messe pour les carnavaleux à Bayeux.
Ah ouais,
allez. C'est quelque chose de géant. C'est un mec super génial, C'est quelqu'un qui nous fait reprendre goût, enfin si on peut dire.
À la vie.
Peut-être pas à la vie, mais croire en Dieu.
Ah oui, bah oui, c'est son rôle aussi, c'est son rôle.
Ah ouais, mais là, lui, il fait super bien, il est génial comme gars. Ouais.
Bon, alors voilà, c'est alors bénédiction par l'abeille, et ensuite, hop, on part pour faire une balade en Flandre.
Attends.
Ah ouais, j'attends.
On commence d'abord, ouais. Non, parce que c'est quand même par rapport à notre Ducasse, donc je parle que du dimanche, hein, parce que ça commence le vendredi, le samedi, donc je parle que le dimanche. Pour la bénédiction des motards, rue Philippe Vontigam à Bailleul. Alors, le dimanche, à partir de midi, parce que sur place, hein, y a à boire, à manger, il y a un restaurant, il y a tout ce qu'il faut pour se délasser et passer une bonne journée, une bonne après-midi. Et à partir de midi, il y a Karen qui vient chanter. Alors, c'est une petite puce, ceux de la région lilloise vont certainement la connaître. Elle est géniale, elle chante super bien. À partir de midi,
on va,
elle est
là. On va venir. Hein.
Elle anime la rue, elle anime un petit peu, patati, voilà. Après, on mange, on boit un petit verre tranquille, peinard. Comme il va faire super beau aujourd'hui, ça c'est clair et net, de toute façon, c'est sûr et certain. Comme on dit par chez nous en Flandre, j'ai été mettre mes œufs à Sainte-Claire pour qu'il fasse beau. Donc il fait beau aujourd'hui. Donc à partir de midi, Karen, elle va animer la rue. Bon, tous ceux qui vont arriver, c'est que du bonheur. C'est, hein, voilà, on va boire un verre, on va discuter,
oui,
on va
faire une
moto, tout ça. Et à partir de 15h, notre super vedette Abbé Janin va arriver. bénir les motards, les motos et tout, ouais. Et tout. Et après, on fait une petite balade en Flandre, une petite heure. Hein. C'est pas une grosse balade. C'est juste pour faire un petit tour dans notre belle région, la Flandre. Et avec en compte le retour vers 16h. Et à partir de 16h, on a un groupe de pop rock et variété française qui lui va prendre la suite jusque qu'il n'y ait plus personne.
D'accord, très bien.
Voilà.
Ah ouais. Super programme, Jean-Michel. Bon, très bien.
Et en plus, juste une petite chose, tout est gratuit.
Oui, c'est en fait, il faut le préciser. Hein. C'est toujours, quand c'est gratuit, vraiment, il faut le préciser.
Sauf les consommations, bien sûr.
Oui, bien sûr. Oui, d'accord. Oui, donc, de toute façon, l'annonce est sur la page 23 du calendrier. Hein, donc, c'est bénédiction à Bailleul. Voilà. Très bien. Merci d'avoir répondu aux questions du magazine de la moto de Kikinkoutou Tupal.
Voilà.
Merci. Et puis on espère que le 22 mai, il y aura un grand soleil. Hein.
J'espère te voir quand même. Hein.
Oui, je vais venir. Je vais voir comment elle s'appelle. Voilà.
Bon. Karen.
Oui, Karen, voilà.
Ouais. C'est une jolie petite rouquine.
Bon, très bien. Oh, bah, j'adore les rouquines. J'adore. Merci Jean-Michel. Au revoir. À dimanche prochain.
Ok, ça marche.
Voilà, maintenant on est en compagnie d'Angélique qui nous vient de la ferme à Villeneuve-d'Ascq.
Oui, bonjour. Alors j'arrive de la ferme Cantal à Villeneuve-d'Ascq.
Voilà. Où il se passe beaucoup de choses aujourd'hui.
Petit Pré, pour ceux qui la connaissent, parc du Héron. Alors c'est quand même déjà pas mal couvert de monde. Il y a des Harley qui sont là, des Mustangs. ouais, c'est pas mal. Bon, c'est un peu. Ça se couvre, mais ça se découvre. Hein,
très bien.
Et c'est pas mal aussi. Alors il y a des tout petits là qui veulent grimper sur les motos et ça leur fait plaisir de faire des tours et c'est pas mal d'avoir en famille.
Il y a un but à cette manifestation aussi.
Oui, alors en fait cet événement là il est organisé par le Rotary Club pour soutenir l'action de Canta qui est un ESAT hein, en fait. Donc théâtre du handicap et estaminet du handicap. Et donc c'est au profit et tous les profits sont reversés à l'association Canta. Donc, c'est super. Et merci. Il y a le Harley Davidson Club qui est là pour qui a prêté ses motos. Donc, y a aussi des voitures, des Mustangs, voitures américaines.
Je vais y aller.
Ouais.
L'émission se termine. Là,
et
Hamburger
Maison Miam.
Et on file tout de suite là-bas, donc petit prêt.
Ouais, et jusqu'au bout de la soirée, parce qu'après ce soir, Nena Deluxe qui fait un concert super privé dans des petites salles d'une vingtaine de personnes.
Ouais, donc on va faire si on est 200 ou 500.
Eh ben, on se serra, hein, je vais dire, on se tiendra chaud, c'est bien.
Bon, voilà, alors, bien, générique, hop, écoute, on termine l'émission, puis on part là-bas.
Voilà, moi, j'y retourne, voilà, merci, parce que franchement, c'est super.
Merci, Angélique, merci. Bon, messieurs, prochain rendez-vous, Grand Prix Mugello, c'est dimanche prochain, hein. On va regarder un peu si normalement Italie, Mongello c'est Italie, ouais, Rossi,
que Zarco retrouve du panache.
Et Zarco, hein, oui, oui. Et Zarco aussi, hein.
Ouais, ouais, ouais. Ouais.
Et puis peut-être aussi notre ami Danilo aussi, notre petit nordiste là, ouais, qui nous fera peut-être un troisième ou quatrième
point de Masbou aussi.
Ou Masbou, voilà.
Ah oui, bah oui.
Voilà. C'est un circuit rapide.
L'émission se termine. Merci Claude, merci Nicolas, merci Angélique. Et puis, merci notre technicien. Et on se retrouve dimanche prochain à la même heure, 11h, sur les ondes de Radio Campus 106,6. Passez un bon dimanche. Au revoir.
Bon dimanche. Salut.